On va commencer par un petit question pour un champion. Alors normalement, il y a quatre buzzers. J'ai pas de buzzer et vous êtes plus que quatre. Donc dès que vous avez la réponse, vous criez la réponse. Et si c'est faux, je continue. Et si je l'entends, ben bravo à vous. Alors, qui suis-je? Je suis né en 640 avant Jésus-Christ. Mon nom signifie que Dieu se lève. Je suis contemporain de la fin du royaume de Juda et de l'exil de Babylone. Alors que les Assyriens dominent le Proche-Orient, les Babyloniens, appelés aussi Chaldéens, prennent leur essor dans la seconde moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ. Les Égyptiens, qui voient cette menace, s'associent aux Assyriens et vont malheureusement subir une défaite. Une partie du peuple va être déportée à Babylone et j'ai choisi de rester à Jérusalem. De là, j'enverrai une lettre qui sera citée dans un écrit. Je fais partie des quatre prophètes, vous en avez cité deux, pas de chance, des quatre grands prophètes, Jérémie. Et en cette période, j'aurais pu faire une jérémiade sur la température. Jérémie. Et on va justement parler de lui. Je pense que vous connaissez tous au moins un verset du livre de Jérémie. Vous en connaissez même deux, je pense. Mais il y en a un. Car je connais. Voilà, super, vous savez très bien faire un message. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, on va. Vous savez où c'est situé ça dans Jérémie? Un peu plus difficile? Non, ça appelle-moi et je te répondrai. Jérémie 29, d'accord? Et c'est le verset 11. Et puis juste avant, il y a un verset. Dans 29,7 que vous connaissez aussi, pour moi c'est facile, j'ai révisé, mais je comprends que pour vous c'est plus difficile. Jérémie 29, verset 7, priez pour la ville, car de la paix de la ville dépend votre paix. Et souvent on cite ces versets pour prier pour les autorités, et c'est bien de le faire, de prier pour les autorités, mais on va un peu regarder ce contexte-là. Comme je l'ai dit, Jérémie, 640 avant Jésus-Christ, décédé vers 587 en Égypte, parce que avec la prise du temple qui a lieu justement en 587, et le temple va être brûlé, il ne restera rien. Certains qui étaient restés et qui n'étaient pas déportés à Babylone ont fui en Égypte, et malgré les protestations de Jérémie qui voulait rester, il a été embarqué en Égypte et il décédera a priori quelque temps après. On n'est pas sûr des dates, mais c'est par là. Donc Jérémie, il voit quelque part la fin de quelque chose que tout le monde pensait être éternel, le temple. Cette terre promise, Juda, qui est prise. Conquise. C'est presque la fin des rêves. Et bien sûr, ça sur une longue période. Et Babylone qui règne avec ses faux dieux. Et là, il y a beaucoup de prophètes qui se lèvent. Vous les connaissez, vous avez cité les trois autres grands prophètes. Alors, on les appelle grands prophètes, pas parce qu'ils faisaient 2,10 m, mais parce qu'ils ont écrit un livre avec beaucoup de chapitres. Les chapitres sont venus après, mais des livres plus importants en taille que ce qu'on va appeler les petits prophètes où les livres sont plus courts, mais pas moins importants. Ce qui compte, c'est que ces livres soient inspirés. Et nous nous trouvons donc à Jérémie 29, et Jérémie 29, en fait, on va lire à partir du verset 1. Voici les paroles de la lettre que Jérémie, donc Jérémie signifie que Dieu se lève. Le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux prêtres et aux prophètes, et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené en exil de Jérusalem à Babylone. Et donc c'est une lettre. Une lettre avec ce que Jérémie a reçu pour ce peuple qui est exilé. Exilé parce que Juda a été conquis, envahi. Ça vous est pas déjà arrivé de vous sentir pas à votre place? Il y en a qui, malheureusement, dans notre monde aujourd'hui, sont obligés d'être exilés, de fuir les guerres, de fuir la misère, de fuir l'exploitation qui a lieu dans leur pays, l'exploitation humaine. Tous les jours, vous pouvez rencontrer, même ici, en Franche-Comté, des personnes qui sont exilées. Ça fait partie de l'historique de notre région aussi. Mais aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont exilés. Mais parfois, nous aussi, on peut se sentir pas à notre place. Et à l'époque de Jérémie, il y a des prophètes qui ont dit au peuple, rebellez-vous contre Nebuchadnezzar. Levez-vous, n'acceptez pas cette situation. Et Jérémie va écrire cette lettre en disant, ne le faites pas, parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Oui, vous êtes exilés. Oui, vous pouvez vous croire en dehors du chemin que Dieu avait tracé, en tout cas en dehors de vos rêves. Parce que je ne pense pas que c'était un rêve pour un judaïque, enfin un habitant de Juda à cette époque-là, de se retrouver à Babylone. De loin pas. Et on peut se retrouver dans nos situations personnelles, même si on est encore sur notre terre natale, exilé quelque part. Pas à notre place. Pas à notre place dans la société, pas à notre place sur notre lieu de travail, pas à notre place, des fois dans l'église. On se sent exilé. Pas à ma place. Et pourtant, Jérémie va dire, verset 7, ce qu'on a dit tout à l'heure, « Cherchez la paix de la ville où je vous ai emmené en exil et priez Yahvé pour elle, parce que dans sa paix, vous aurez la paix. » Oui, c'est une traduction un petit peu différente, mais tout aussi juste. Priez pour la paix de la ville. Et Dieu n'est pas en train de dire, ouais, c'est une belle ville et tout ça, c'est bien. Dieu est en train de rappeler aussi, c'est la ville où je vous ai emmené en exil. Et en même temps, Dieu assume que finalement, cet exil, il en est l'agent. Je vous ai emmené en exil. Alors, on sait très bien que quand il y a déportation et exil, c'est parce que le peuple, à un moment donné, s'était éloigné de Dieu. Et plutôt que de détruire le peuple, Dieu le met face aux conséquences de ce qu'il fait. Conséquence, tu n'es plus dans le pays promis. Mais Dieu est en train de dire, ne vous rébellez pas contre cette ville. Maintenant, vous avez les deux pieds dedans. Et vous pouvez apporter là où vous êtes, même si c'est pas le lieu dont vous rêviez, même si c'est pas la façon de faire que vous aviez imaginé, même si c'est pas votre idéal, là où vous êtes, vous pouvez amener une bénédiction. Vous pouvez amener la paix. Cette ville, ce peuple qui m'a fait la guerre, qui m'a exilé, Jérémie demande, et Dieu, à travers lui, non pas que je me rebelle, mais que je prie pour eux, et que je sois un instrument de paix. Eux qui ont été un instrument de guerre et de mort, que je devienne un instrument de paix et de vie. Et peut-être que tu ne te sens pas à ta place sur ton lieu de travail, mais je t'assure, prends du temps avec Dieu. Parce que Dieu fera sur ton lieu de travail de toi un instrument pour sa gloire. Et ça passe par prendre du temps d'abord avec Dieu. Et peut-être faire la paix avec ton histoire. Ouais, si j'avais étudié un peu plus, je ne serais pas là. Et tu fais la paix avec ton histoire. Et peut-être tu ne te sens pas à ta place aussi dans la génération où tu es. Ou dire, ben, ma place, elle est passée, quoi. Avec l'âge, avec plein de choses. Je suis passé à côté. Et Dieu dit, quoi qu'il s'est passé, au final, c'est moi qui suis derrière tout ça. Est-ce qu'il y a de rassurant lorsque Dieu dit, c'est moi qui suis derrière tout ça? Ça veut dire que Dieu est encore là, dans mon exil. Dieu est encore là, malgré l'âge. Dieu est encore là, malgré le travail que je n'ai pas forcément choisi. Dieu est encore là, malgré le pays dans lequel je suis, parce que j'ai dû fuir le mien. Dieu est encore là. Et Dieu va encore m'utiliser. Dieu va encore m'utiliser pour que je sois en paix et pour que, autour de moi, une œuvre puisse se faire. Il y a toujours de l'espérance en Dieu. Dieu n'est jamais une impasse. Et les situations dans lesquelles nous sommes ne sont jamais des impasses. Un jour, elles passeront. Je le crois fermement. Parce que Dieu est toujours là, même dans les impasses. Et quand Dieu est là dans une impasse, il est capable de faire un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Dieu est capable d'apporter la lumière là où il n'y avait plus de lumière. Dieu est capable d'apporter une espérance là où je n'avais plus d'espérance. J'ai déjà prêché sur espérer au-delà de toute espérance dans cette église. Dieu est toujours là. Et c'est pour ça que Dieu nous invite non pas à nous rebeller contre les circonstances en disant c'est la faute des circonstances, mais peut-être à reconnaître le pourquoi je suis déporté, un peu de lucidité, même au-delà de ça, à reconnaître la présence de Dieu et que Dieu peut encore m'utiliser pour que là où je suis, les choses peuvent se passer encore. Parce que Dieu est avec moi. Et au verset 8, on va lire un peu la suite de ce Jérémie 29. Jérémie continue d'écrire. Et il va donner une explication à pourquoi je ne dois pas me rebeller et pourquoi je dois oser construire des maisons sur cette terre qui n'est pas la mienne et oser bâtir une famille et oser m'installer quelque part. Car ainsi parle Yahvé Tsebaat, Elohim d'Israël. Que vos prophètes qui sont au milieu de vous et vos devins ne vous séduisent pas et n'écoutent pas vos rêves que vous rêvez. Allusion à ces prophètes qui invitaient à se lever contre. Je rappelle, Jérémie, c'est quoi son nom, ça signifie quoi? Que Dieu se lève. C'est pas à nous de nous lever, mais à Dieu de se lever. Et c'est ce que Jérémie rappelle là. Puisque Dieu nous a conduits jusqu'ici, dans cette situation-ci, et même si on a l'impression que ce n'était pas Dieu, que c'était l'ennemi qui nous envahissait, puisque maintenant nous sommes dans cette situation ici, c'est pas à nous de nous rebeller, c'est pas à nous de faire opposition à l'autorité, mais c'est Dieu. Lui l'autorité suprême. Lui le chef des armées. Lui le Seigneur Tout-Puissant qui va se lever pour nous. Et on verra dans la suite de l'histoire, si vous la suivez, qu'en fait, ceux qui se sont rebellés ont mal fini. Par contre, ceux qui ont accepté cette parole ont pu voir quelque chose de grand. Jérémie dit, n'écoutez pas ces prophètes qui vont dans le sens de vos rêves, qui vous disent ce que vous aimez entendre. Je me méfie énormément. Quand je crois percevoir la pensée de Dieu et que cette pensée confirme énormément les miennes, ça ne me plaît pas. Ça me fait un signal d'alarme. Alors des fois, ça peut arriver que Dieu soit d'accord avec vous, ou je dirais plutôt que vous soyez d'accord avec Dieu. Mais en général, la pensée de Dieu me dépasse, est bien plus grande que tout ce que je peux imaginer. Et ce qu'on peut retirer de cette lettre de Jérémie, avec les versets qui vont suivre aussi, c'est que Dieu n'est pas contre le fait que nous espérions, que nous imaginions des choses ou que nous rêvions. Et c'est même important d'avoir encore des rêves dans nos vies, quel que soit notre âge. Mais ce qui est important, c'est que nous ne rêvions pas nos rêves, mais que nous rêvions le rêve de Dieu. Alors, c'est choquant de dire que Dieu rêve. Parce que les théologiens vont vous dire, oui, mais Dieu est complet, il n'a pas besoin de rêver. Mais moi, je crois que Dieu rêve d'une humanité sanctifiée en communion avec lui. Mais ce n'est pas juste un rêve. Il a tout accompli pour l'accomplir. C'est un rêve accompli. À la différence de nos rêves, qui sont parfois que de la fumée inaccomplie. C'est pour ça que c'est important de ne pas rêver nos rêves, qui sont en fait peut-être la traduction de frustration, mais de rêver le projet de Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire pour nous? Et derrière cette grande question, au-delà de quelle est la pensée de Dieu pour nous, simplement, qu'est-ce que Dieu aime? Arrêtons d'être centré le projet de Dieu pour moi. Quel est le projet de Dieu pour chacun, pour l'humanité? Pas juste pour moi. Et n'écoutons pas ce qui va uniquement dans notre sens. C'est vrai spirituellement. C'est peut-être vrai aussi pour pouvoir se comprendre les uns les autres dans une société qui va être de plus en plus dualiste et extrémiste d'un côté ou de l'autre. Et d'ailleurs, peut-être qu'avec les élections qui vont venir, vous allez vous retrouver dans un pays où vous vous sentiriez déporté parce que ce n'est pas ce que vous avez voté qui a été porté aux urnes. Et on va se sentir pas à notre place. Parce que ce ne sera pas forcément nos idées. Et peut-être que Dieu nous dit, ben, continuez de prier pour ces autorités-là, pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Continuez d'être des instruments de paix dans cette société. Parce que de la paix de la société va dépendre aussi votre paix. Et Jérémie continue. Car ainsi parle Yahvé, au verset 10. Lorsque les 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai. Et j'accomplirai ma bonne parole à votre égard pour vous faire revenir dans ce lieu. Ce lieu, Jérémie, si vous avez compris, il est lui resté à Jérusalem. Dieu parle du retour à Jérusalem, seulement au bout de 70 ans. Ça veut dire que certains ne le verront pas, ce retour. Mais ces gens qui ne le verront pas sont appelés à construire la génération qui le verra. Et ça, c'est frappant. En plus, là, il est parlé d'une bonne nouvelle. C'est clairement un passage qu'on peut mettre en référence à l'Évangile qui annonce le retour de Jésus. Mais pour certains, le retour de Jésus, l'enlèvement, vous ne le verrez pas. Vous verrez votre enlèvement. Le jour où vous partirez de cette terre pour rejoindre le Seigneur. Ça sera votre retour de Jésus à une date très personnalisée, la vôtre. Mais nous sommes appelés, quoi qu'il en soit, que nous fassions partie de ceux qui le verront ou de ceux qui ne le verront pas, à construire la génération qui le verra. Juste avant, Jérémie insistait, ces gens qui étaient déportés, à construire des familles et à avoir des petits-fils. Et à même construire des maisons. Or, comme eux, nous sommes de passage sur cette terre. Eux, ils étaient de passage sur Babylone. Un passage de 70 ans. Moyenne de vie. De l'époque. Nous sommes de passage sur cette terre. Et moi, j'ai toujours cru, dans mon zèle évangélique, que puisque je suis de passage, je ne vais pas construire de maison. Puisque je suis de passage, ça ne sert à rien de laisser quelque chose. Et Dieu te dit, non, construis sur cette terre. Construis sur cette terre en sachant que tu es de passage. Construis pour la génération qui vient. Construis pour les gens autour de toi. Construis la paix. Ne dis pas, je vais laisser la guerre parce que de toute façon, ça passera dans 70 ans, l'histoire est réglée, je ne serai plus le concerné. Non, construis encore. Tout ce que tu peux construire sur cette terre, fais-le. Tout ce que tu peux semer sur cette terre, sème-le. Tout ce que tu peux donner sur cette terre, donne-le. Parce qu'après, tu ne pourras plus le faire. Et parce que c'est comme cela que tu vas être en bénédiction et te sentir à ta place, malgré le fait que tu es étranger sur cette terre et d'un autre royaume. Dieu dit, lorsque les 70 ans seront accomplis, je vous visiterai. Alors, on va dire, ça veut dire que 70 ans, Dieu n'est pas là? Non. Mais il y aura quelque chose de spécial, une visitation spéciale. Et aujourd'hui, cette visitation, c'est le Saint-Esprit en chacun de nous. Il ne vient pas seulement visiter, il vient aussi habiter. Vous connaissez ma théologie là-dessus, j'en ai déjà parlé ici, je ne vais pas m'étendre. Mais c'est une différence importante. Et il se suit de cette libération le fait de revenir au pays promis. Et en fait, à quoi est-ce que je vois que j'ai progressé en tant que chrétien? Est-ce que parce que j'ai plus de dons? Est-ce que c'est parce que je semble plus intelligent, plus de connaissances? Non. Je vois que j'ai progressé parce que il y a un retour à Dieu qui continue de se faire et parce que mon intimité avec Dieu grandit. Vous ne serez jamais plus mature que votre intimité avec Dieu. Parce que votre maturité vient de l'intimité avec Dieu. Je peux avoir 5 ans de vie chrétienne et être mature parce que j'ai cultivé mon intimité avec Dieu. Et quand je parle d'intimité avec Dieu, je parle d'une intimité équilibrée. Pas un ultra-spi qui prend toutes ses pensées pour les pensées de Dieu. J'en ai connu des comme cela. C'est hyper dangereux. Ne les suivez pas, comme dit Jérémie. Ne suivez pas ces prophètes qui prophétisent selon ce que vous avez envie d'entendre. Mais suivez ce que Dieu, dans l'intimité, est capable de bousculer dans vos cœurs. Parce que quand Jérémie écrit cela, c'est pas dans le sens courant de ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est pas non plus ce que les gens entendent autour d'eux de la part d'autres prophètes. Quand Jérémie écrit cela, il est en contre-courant. Est-ce que je suis capable? Et ça, c'est un signe d'intimité avec Dieu. C'est un signe profond d'intimité avec Dieu. Est-ce que je suis capable d'accepter, d'entendre et d'écouter le rêve de Dieu, la pensée de Dieu, lorsqu'elle vient contraire à tout ce que j'entends, des fois même à tout ce que je crois être juste dans mon cœur, contraire à moi-même, et qu'elle ne fait pas plaisir aux autres. Est-ce que je suis capable d'être à contre-courant? Réponse, non. Je vous rassure, on a tous dans nos cœurs une force de résistance, on n'aime pas le changement. Et on n'aime pas se démarquer des autres. On n'aime pas être à contre-courant. On n'aime pas être le seul à dire « je suis pas d'accord ». D'ailleurs, c'est une façon de manipuler, de faire des votes à haute main, comme ça on voit tout de suite celui qui est pas d'accord. Et c'est plus dur de lever une main que de voter en secret pour dire « je suis pas d'accord ». On n'aime pas s'afficher, surtout s'afficher contre. On aime s'afficher pour être adulé. Les stars aiment ça. Vous allez dire « ça tombe bien, je suis pas star, donc j'aime pas ça ». Non, peut-être. Que dans ton cœur, il y a quand même, en tout cas, cette réticence à devoir s'opposer. Mais comme nous l'avons vu, c'est pas s'opposer contre des faits extérieurs. C'est s'opposer contre l'État ou tout ça, c'est pas cela. Jérémie n'appelle pas à cette rébellion-là, mais plus à une rébellion contre ce qui est à l'intérieur de moi-même, contre mes propres rêves, contre ma propre pensée. Et ça, c'est très difficile parce que c'est une remise en question de qui nous sommes. Mais c'est une affirmation de qui est Dieu pour nous. Et cela, ça ne peut se faire que si je suis assuré de qui est Dieu pour moi. Et Jérémie continue au verset 11, juste après. C'est intéressant, c'est tous des versets qui commencent par « car ». Comme si c'est un raisonnement logique où Jérémie vient au cœur finalement de ce qui doit nous motiver. Et Dieu dit, car je sais moi-même, les pensées que moi-même je pense pour vous. Déclaration de Yahvé. Pensées de paix et non de malheur pour vous donner une fin telle que vous espérez. J'aime beaucoup cette traduction parce qu'elle est très proche de l'original. C'est pas juste vous donner un avenir et de l'espérance. Mais c'est vous donner une fin. Ah ouais, c'est une fin, c'est... quand c'est marqué fin à la fin du film, ça veut dire qu'on va quitter la salle de ciné qui est climatisée. On n'aime pas, c'est la fin, mon temps de loisir est terminé. Des fois, quand je lis un livre, j'ai pas envie de terminer les 10 dernières pages parce que c'est que ça va s'arrêter et puis j'ai pas envie de quitter les personnages. C'est la fin. On n'aime pas les fins. Les fins, ça marque une séparation. Et c'est pas toujours génial, une fin. Mais avec Dieu, la fin, c'est toujours le début de quelque chose. La fin d'une vie, le début de la vie éternelle. Mais au-delà des rêves, et c'est la grande différence, c'est une espérance. Trois choses demeurent. L'espérance en fait partie. L'espérance, c'est plus qu'un rêve. C'est pas un « j'espère que demain il pleuvra un peu » pour rafraîchir. L'espérance, c'est du même domaine que la foi. C'est-à-dire une confiance que Dieu fera les choses. Mais l'espérance, c'est le projet de Dieu pour nous. L'espérance, c'est là où j'irai, parce que Dieu a voulu que j'y sois. Qu'il ne pourra pas en être autrement. Je serai forcément là où Dieu voudra que je sois. Et il sera toujours avec moi. Et parce que j'ai cette espérance, on va remonter l'écart à l'envers. Puisque j'ai cette espérance dans ma vie, je vais apprécier la pensée que Dieu a pour moi. Non pas ma pensée, mais celle que lui a. Et je vais prendre plaisir à sa pensée. Et même si je me retrouve déporté, je ne vais pas écouter les désirs de mon cœur qui va me pousser à me révolter contre la situation sur laquelle je suis. Mais je sais que Dieu est là et qu'avec lui, je vais pouvoir traverser cette situation et qu'effectivement, cette situation aura une fin. Et peut-être que si je ne me sentais pas ma place, je serais content de quitter le film. Et là, je serais à une fin. Mais pas une fin qui me détruit, mais une fin qui me permet de passer à quelque chose de nouveau. Parce que, entre-temps, j'aurai grandi en intimité avec Dieu parce que j'ai découvert qu'au milieu de ces situations, Dieu reste avec moi. Et que même si cette situation dure 70 ans comme la déportation à Babylone, ou plus, ou moins, je ne connais pas vos situations. Mais je sais que cette situation aura une fin. Mais qu'au milieu de cette situation, Dieu est avec moi si bien que je vais pouvoir travailler et être encore un instrument de paix au milieu de cette situation-là. Dieu ne me met pas sur off, ne me met pas entre parenthèses le temps que je traverse cette situation-là. Au contraire, si je suis là aujourd'hui, et si vous êtes là aujourd'hui, dans cette église, dans cette ville, dans ce climat, c'est parce que Dieu a encore des projets à accomplir à travers vous. Et on a souvent associé Jérémie à des Jérémiades. Mais vous savez, en fait, même si Jérémie a pleuré en 687 avant Jésus-Christ sur la chute du temple, et on représente souvent Jérémie en train de pleurer, du coup, quand je lis Jérémie, ce ne sont pas les pleurs de Jérémie que je vois. Ce sont les pleurs de Dieu sur un peuple qui n'a pas compris ses projets et qui n'est pas encore entré dans les projets de Dieu. Je vois le cœur de Dieu qui pleure parce que son peuple n'est pas un instrument de bénédiction alors qu'il devrait l'être. Parce que son peuple s'est trop tourné sur lui-même et a trop pensé à se lever lui-même plutôt que de laisser Dieu se lever, parce que son peuple a oublié qui était vraiment Dieu, et que Dieu, quelle que soit la situation de l'Église, Dieu peut encore utiliser son Église aujourd'hui, parce que c'est son projet. Alors ne soyons pas dans des Jérémiades. Soyons à l'écoute, non pas de ce que nos cœurs aimeraient entendre, mais ce à quoi Dieu aspire pour nos vies et pour notre société. Que Dieu vous bénisse pleinement. Merci pour votre attention.